Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. À quelques jours des législatives espagnoles, le parti ultra-conservateur et nationaliste Vox est crédité de 12% des intentions de vote. Mais nombreux sont les observateurs à penser que ce score est largement sous-estimé. C'est à El Ejido, le potager de l'Europe, près d'Almeria, dans le sud du pays, où sont cultivées des tonnes de légumes que Vox a obtenu son meilleur résultat en décembre dernier. C'est ici aussi que ce jeune mouvement espère battre tous les records dimanche prochain. Son principal argument de campagne, l'immigration. Un thème paradoxal alors que la main-d'œuvre étrangère est indispensable à l'économie locale. Et c'est le reportage de Diane Cambon.
Il est 6h30 du matin. Un groupe d'immigrés subsahariens âgés de moins de 25 ans attend sur le rond-point de la route principale de El Ejido qu'un agriculteur les embarque pour aller travailler sous une serre. Certains repartent bredouille, d'autres s'engouffrent dans les camionnettes pour une journée de travail. Sans papier, ces jeunes Africains ne peuvent aspirer à être payés plus de 4 euros de l'heure. Parmi eux, Spitou Mendy, un Sénégalais de 60 ans, régularisé il y a plus de 20 ans. Lui, il est payé 6,90 de l'heure, le tarif syndical. Dès qu'il le peut, cet agent social et travailleur agricole se joint au petit groupe pour les soutenir, mais aussi pour leur expliquer leurs droits, même s'ils sont des travailleurs illégaux.
Les sales boulots, tels que le travail agricole sous serre, n'est fait que par des migrants, des subsahariens, des marocains, des roumains. Il n'y a pratiquement pas d'espagnols sous serre. Ce qui arrive, quelqu'un s'aventure, c'est un ingénieur, c'est le chef d'équipe. Et la tendance aujourd'hui, c'est que les chefs d'équipe sont étrangers aussi. Donc, ça veut dire qu'ici, remplacer cette main-d'œuvre par nationale est pratiquement impossible.
À quelques mètres de là, dans une serre flambant neuve où courgettes et tomates poussent en moins d'une semaine, Juan José Bonilla surveille d'un œil distrait les deux Africains qui ramassent les légumes. Cet avocat de formation qui gère les terres de la famille a été choisi pour mener la candidature de Vox à la mairie de El Ejido. Il est confiant. Sa formation a obtenu ici 30% aux élections régionales de décembre dernier. Son parti parlait d'expulser 52 000 clandestins. Mais ici, sur le terrain, où la main-d'œuvre étrangère est obligatoire pour faire marcher l'économie de la région, le discours s'est quelque peu modéré.
L'idée de Vox n'est pas d'arriver au pouvoir et de mettre tous les clandestins dans une fourgonnette ou un bus et de les éjecter. On a besoin des migrants ici, mais ce qu'il faut, c'est réguler l'immigration. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre illégale, des sans-papiers, et notre objectif est de régulariser tout ça, d'amener des contingents de main-d'œuvre dont on a besoin, avec des permis de travail, des contrats, des logements, pour que tout soit en règle. L'immigration sans contrôle, cela génère une grande insécurité.
Pour Miguel Ángel Chamisso, président de la fondation Acoré Sevilla, qui œuvre à l'intégration des migrants, l'irruption de Vox ne l'étonne pas vraiment. Le terreau est fertile dans la région qui accumule le plus haut taux de chômage d'Espagne. Racisme, crainte économique, ras-le-bol du système, c'est un certain désenchantement qui motive les électeurs de Vox.
Je crois que Vox joue sur la confusion. Ce n'est pas que son discours fonctionne, mais il s'est approprié un mal-être qui existait déjà, celui qui alimente les conflits entre les plus pauvres de la société. Vox veut nous faire croire que les migrants sont les grands privilégiés de l'administration publique. Ce n'est pas vrai. Vox propage le mensonge. Le migrant ne bénéficie d'aucun privilège, vraiment aucun.
Ce discours accusateur, Spitou Mendy le connaît trop bien. Très souvent, il s'est vu reprocher de vivre au crochet de la société espagnole, alors qu'il travaille et cotise depuis deux décennies.
Les partis populaires, les partis socialistes, pendant toute la crise, n'ont pas pu expliquer aux Espagnols, aux citoyens, les raisons de cette crise. Alors, le migrant est le bouc émissaire. S'il y a perte d'emploi, c'est parce que les migrants sont nombreux, c'est parce qu'il y a trop d'étrangers qui prennent votre place. Et que vous soyez au chômage, que ces migrants vivent des aides sociales.
Chaque jour, entre 4 000 et 8 000 travailleurs seraient embauchés au noir dans les serres, permettant de faire pousser des milliers de tonnes de légumes à destination de l'Europe. Une main-d'œuvre bon marché qui fait tourner les rouages de l'économie locale, comme le constate Miguel Chamisso.
Ils sont totalement contradictoires chez Vox. Si on retire cette main-d'œuvre de El Ejido et de toute la région, c'est la catastrophe assurée.
Le vaste potager andalou, dont le succès repose en partie sur une production à bas coût, ne serait qu'un mirage sans les ouvriers agricoles d'origine étrangère. Aujourd'hui, près de 90 nationalités cohabitent dans ce coin de l'Espagne, où les sans-papiers sont devenus indésirables et indispensables à la fois.
There was once a small nation, inhabited by content and happy people. The citizens of this country greatly enjoyed their homeland. The
independence. Les Finlandais, eux, ont déjà voté dimanche dernier. Ils ont sans doute entendu ce clip anxiogène de l'extrême droite. Si les sociodémocrates ont fini par l'emporter avec à leur tête Antti Rinne, ils ne devancent les vrais Finlandais que de justesse. Comme dans de nombreux pays européens, la formation d'extrême droite a surfé sur les peurs des Finlandais et le fantasme d'une invasion de migrants. Anne-Françoise Hiver.
Sur le papier, rien n'a changé depuis les dernières élections législatives en 2015. Les vrais Finlandais obtiennent quasiment le même score à quelques milliers de voix près, ce qui leur permet de décrocher 39 sièges de députés contre 38 il y a 4 ans. Sauf que le parti qui est entré au gouvernement en 2015 n'a plus grand-chose à voir avec les vrais Finlandais actuels. Fini le populisme traditionnel de droite, promu par son fondateur Timo Soini, le parti est devenu une formation d'extrême droite, à l'image de son nouveau patron, l'ex-eurodéputé Jussi Halla-aho, un idéologue condamné en 2012 pour blasphème et incitation à la haine raciale. Lors du congrès de juin 2017, ses proches ont noyauté tous les postes clés du parti, à la stupeur de sa frange modérée, représentée par 5 ministres, dont M. Timo Soini, et 17 députés qui ont claqué la porte et formé un parti dissident, la Réforme Bleue. Dimanche 14 avril, cette formation n'a obtenu que 0,8% des voix. Aucun de ses députés n'a été réélu, tandis que les vrais Finlandais s'imposaient comme la seconde force politique du pays. Depuis la scission, ils plafonnaient pourtant à moins de 10% dans les sondages. L'arrestation d'une quinzaine d'hommes d'origine étrangère soupçonnés de viol et d'agression sur des mineures finlandaises en début d'année à l'ouest du pays a changé la donne en relançant le débat sur l'immigration. Pour les vrais Finlandais qui prônent la fermeture des frontières et la suspension du droit d'asile, c'était une aubaine. 3 semaines avant le scrutin, ils ont diffusé une vidéo inspirée d'un film de super-héros. On y voit l'élite incarnée par des hommes en costume, des masques vénitiens sur le visage, accusés d'avoir vendu le pays à l'Europe, mais aussi aux immigrés. Des hommes à la peau noire se faisant passer pour des réfugiés et qui, dans le film, kidnappent une fillette blonde en jupette. La vidéo, mise en ligne sur YouTube, a été vue plus de 400 000 fois.
Suomalaisilla on oikeus odottaa, että huomenna on paremmin kuin tänään, että tulevaisuus on parempi.
C'est donc un ancien syndicaliste, avocat de formation, qui a réussi à mener les sociodémocrates finlandais à la victoire. 20 ans que cela n'était pas arrivé. Antti Rinne devrait endosser le rôle de Premier ministre après la victoire de sa formation politique aux législatives du week-end dernier. Mais il lui faudra former d'abord une coalition. Les véritables négociations devraient commencer début mai avec les autres formations. Et ce ne sera pas facile pour le leader du SPD. Son portrait signé Margot Turgeon.
J'espérais que notre parti fasse 20% des voix ou plus. Ce n'est malheureusement pas arrivé. Mais nous sommes la formation politique la plus importante, avec le plus de députés au Parlement. Pour la première fois depuis 1999, le Parti social-démocrate est aussi celui du Premier ministre.
Le soir de sa victoire, Antti Rinne n'a pas caché sa déception. Son parti, les sociodémocrates, a remporté les législatives, mais avec seulement un siège de plus que les populistes des vrais Finlandais. C'est donc un succès de justesse. Marie Case est spécialiste du populisme finlandais. Elle confirme qu'Antti Rinne va avoir du fil à retordre pour former une coalition.
À l'heure actuelle, aucun parti a dit qu'il voulait aller dans l'opposition. Tous les partis ont envie d'aller au gouvernement. Et il y a la question de former le gouvernement avec le parti des vrais Finlandais ou non. Il est très probable que Antti Rinne ne veuille pas des vrais Finlandais dans son gouvernement parce que c'est contradictoire avec l'idéologie des sociodémocrates sur plusieurs points, notamment la question de l'immigration ou de l'Union européenne et aussi de l'environnement. Donc les coalitions les plus probables, ce seraient des coalitions avec sociodémocrates, coalition nationale, donc la droite, les Verts et le parti des Suédophones de Finlande, ou alors sociaux-démocrates, centre, vert, le parti de gauche et les Suédophones de Finlande. C'est les deux coalitions les plus probables à l'heure actuelle.
Dans l'entourage d'Antti Rinne, on se dit bien sûr confiant, il est l'homme de la situation. Dimitri Kvintus, son porte-parole depuis 5 ans.
Il est très professionnel quand il s'agit de négocier avec différents partis.
Des qualités de négociateur qu'Antti Rinne aurait acquises à l'époque où il dirigeait des syndicats finlandais, entre 2000 et 2014, c'est en tout cas ce que pense Jaana Aaltonen. Elle a travaillé à ses côtés pendant 7 ans quand il dirigeait le syndicat Pro.
Quand une situation délicate se présentait, il faisait son possible pour contenter tout le monde. Il écoutait chaque revendication parce qu'il ne voulait décevoir personne, même ceux à qui il était opposé. Il était capable de prendre des décisions très rapidement et cherchait toujours à trouver des solutions innovantes. Il travaillait très dur, à tel point que c'était difficile pour lui de déléguer.
Power to others. Négociateur, gros travailleur, Antti Rinne aurait donc toutes les qualités pour être Premier ministre. Et si l'on en croit son porte-parole Dimitri Kvintus, c'est aussi un homme de confiance. Pour lui, pas de doute, Antti Rinne tiendra sa promesse phare de mettre un frein à l'austérité, tout en protégeant le modèle social finlandais, d'autant plus facilement que cette cause s'inscrit dans les valeurs qu'il porte, Dimitri Kvintus.
Sa politique est fondée sur des valeurs.
Quelles valeurs ?
La justice sociale et l'égalité. Il est toujours du côté des plus faibles.
L'autre défi pour Antti Rinne sera de ne pas décevoir ses électeurs et de reconquérir ceux qui ont donné leur voix aux vrais Finlandais pour éviter que l'extrême droite fasse un encore meilleur score aux prochaines législatives. Et ceux qu'il va falloir avant tout convaincre, ce sont les jeunes, comme l'explique la doctorante Marie-Caz.
Il n'est pas forcément le personnage le plus populaire dans la politique finlandaise. Les jeunes ont tendance à voter pour les Verts énormément. Donc pour moi, c'est aussi cette idée que les sociaux-démocrates sont un parti qui est très vieux. Les jeunes sont peut-être plus attirés par des thématiques plus nouvelles. Et c'est aussi pour ça que les vrais Finlandais fonctionnent. Ils ont toujours critiqué ces vieux partis, c'est-à-dire sociaux-démocrates sont entrés en coalition nationale.
Antti Rinne a promis de former un gouvernement avant la fin du mois de mai.
Malgré la visite historique du Premier ministre grec Alexis Tsipras à Skopje début avril, de nombreux contentieux perdurent entre la Macédoine du Nord et la Grèce. Des producteurs grecs de vin s'indignent de constater que les bouteilles produites un peu plus au nord conservent leur appellation « vin de Macédoine ». Les producteurs de ce petit pays des Balkans ont pourtant amélioré la qualité de leur vin ces 10 dernières années afin de conquérir de nouveaux marchés à l'étranger. Mais cette stratégie pourrait être remise en question par les disputes autour de l'appellation. Reportage Laurent Gélin.
Les vignes de Château-Camnic tapissent une colline à la sortie immédiate de Skopje, souvent pointée comme l'une des villes les plus polluées des Balkans, voire d'Europe. Les 17 hectares du domaine ont été plantés en 2004 par un homme d'affaires qui a fait fortune dans le commerce des armes. Sandra Georgievska est la jeune œnologue en charge du domaine.
Le terroir, ce n'est pas seulement le sol, ce sont les conditions météorologiques, le soleil. Nous avons aussi une très bonne micro-localisation. Le sol est pierreux et sous les pierres, nous avons de l'argile rouge, ce qui est très bon pour produire du vin blanc, mais aussi du vin rouge. Nous avons aussi une très bonne ventilation car nous sommes situés à 350 mètres au-dessus du niveau de la mer.
L'été, la chaleur est étouffante à Skopje, mais la capitale macédonienne subit l'hiver des influences continentales venues du nord. Et la vallée du Vardar qui traverse la ville fait remonter des vents venus de la mer Égée. C'est sur les rives de ce fleuve que se concentre 85% de la production viticole de la Macédoine du Nord. Une production qui commence à séduire partout dans le monde, au point de représenter désormais le second produit d'exportation du petit pays, avec 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, contre 37 millions en 2010. Natalia Kuzmanovska est la directrice des ventes de Château-Camnic.
Jusqu'à il y a 10 ans, la Macédoine était un pays que personne ne connaissait, mais ces 10 dernières années, nous sommes devenus très populaires dans le monde entier, parce que notre vin est de bonne qualité. Nous les présentons aux États-Unis, au Japon, en Chine, mais aussi en Europe, et maintenant les gens savent qui nous sommes.
En Macédoine du Nord, la vigne est une longue histoire qui remonte à l'Antiquité. Mais à l'époque yougoslave, seul un combinat d'États produisait du vin de médiocre qualité, comme l'explique Elena Mladenovska-Jelenkovic, chargée de la communication du domaine Tikvech, fondée en 1885 et nationalisée durant la période communiste.
À l'époque de la Yougoslavie, toutes les républiques étaient dédiées à des industries bien spécifiques. Plus de 60% du vin de la fédération était produit en Macédoine. À cette époque, le pays produisait surtout du raisin et du vin peu onéreux qui était vendu en vrac et qui était mis en bouteille dans d'autres républiques.
Plus de 14 000 familles vivent aujourd'hui des vignes et du vin en Macédoine du Nord. Un pays toujours gangréné par le chômage et d'où les jeunes s'exilent massivement vers l'Europe occidentale. La bonne santé exceptionnelle de ce secteur pourrait cependant pâtir des différends qui subsistent avec Athènes. Les 300 producteurs du nord de la Grèce s'indignent ainsi de trouver sur les bouteilles de leurs voisins septentrionaux l'indication « vin de Macédoine », alors que celle-ci est une appellation géographique protégée reconnue par l'Union européenne et qu'elle est déjà utilisée sur 4 millions de bouteilles produites dans la région grecque, également nommée Macédoine. Cette dispute n'a pourtant pas l'air d'inquiéter Elena Miloševska, membre de l'Association des producteurs de Macédoine du Nord, qui regroupe les 10 plus grands domaines du pays.
La Macédoine est une région historique. Une partie est maintenant constituée par la Macédoine du Nord, l'autre en Grèce et une dernière en Bulgarie. Nous pensons donc, comme le montrent d'autres exemples dans les pays de l'UE, que le nom de la région Macédoine peut être utilisé pour définir l'origine du vin ou des produits agricoles qui viennent de ces trois pays. On peut souligner avec une autre indication que le vin de cette partie de la Macédoine vient de la Macédoine du Nord et que celui des autres parties de la Macédoine viennent de Grèce ou de Bulgarie.
Les vignerons grecs et macédoniens parviendront-ils à vider la coupe de la discorde? Dès qu'ils se mêlent aux enjeux identitaires, la vigne et le vin deviennent toujours des questions éminemment politiques.
Et on termine par cette histoire plutôt ironique que nous raconte notre correspondante Cécile Debarge en Italie. Une famille originaire des Pouilles a demandé l'asile au Canada parce qu'elle se sentait menacée par la mafia. Le père de famille était un ancien membre d'une mafia locale qui avait témoigné contre son clan. Mais le Canada n'a pas voulu leur donner asile et ils doivent retourner chez eux. Des réfugiés italiens déboutés en quelque sorte.
L'histoire a été révélée par le journal britannique Le Guardian. Alessandra Demetris et son mari Fabrizio sont originaires des Pouilles, dans le talon de la botte italienne. Une région où l'organisation criminelle qui règne depuis le début des années 80 s'appelle la Sacra Corona Unita. La famille d'Alessandra en fait partie, mais très vite elle prend ses distances avec eux. Quelques années plus tard, la jeune femme rencontre Fabrizio, un électricien d'une petite entreprise locale. Ce n'est en réalité qu'une couverture. Fabrizio est un informateur pour la police. Il tente de découvrir les tenants des infiltrations mafieuses dans des entreprises locales. Lorsque sa couverture est révélée, il commence à être harcelé par ses collègues. Au même moment, Alessandra, elle, est accusée par sa famille d'aider l'un de ses cousins, repenti, à se cacher. La persécution commence. Voitures garées devant chez eux en permanence, chiens empoisonnés, menaces contre leur fils proférées par un autre élève dont le père est incarcéré. La famille file alors vers le nord du pays, à plus de 1000 km de là. Mais en mettant en vente leur voiture, un prétendu acheteur vient en réalité leur délivrer un message de la part de la Sacra Corona Unita. Ils décident alors de fuir au Canada où ils arrivent en septembre 2013. Ils déposent immédiatement une demande d'asile, les enfants vont à l'école, Fabrizio trouve même un emploi. Un an plus tard, le coup de massue, leur demande d'asile est rejetée. Pour le Canada, ils ne remplissent pas les conditions qui justifient leur persécution dans leur pays d'origine. Depuis, ils vivent clandestinement dans le pays pour ne pas rentrer en Italie.
Françoise Grelot était à la réalisation et à la mise en onde. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure.